Notre programme cette année, c'est un programme d'histoire des religions qui s'intitule « Religiosité, modernité, la religion et la politique dans nos sociétés ». Je vous remercie pour vos inscriptions à ce programme. Et la première chose que vous devez avoir, c'est votre programme et calendrier de l'année. Donc là, il y a une adresse, si vous ne l'avez pas encore récupérée, c'est l'adresse qui s'affiche sur votre écran, c'est-à-dire cette adresse-là, donc l'adresse de la CLA, et là vous allez dans « Programme de cours » et vous retrouvez votre programme de cours pour le vendredi, c'est-à-dire les visioconférences concernant religiosité et modernité. La religion et la politique dans nos sociétés. Alors, ce programme, vous le découvrez sur l'écran, puis vous le récupérerez si vous ne l'avez pas fait directement sur le site. Alors c'est un programme qui vous propose cinq chapitres qui vont découper ce programme. Le premier chapitre s'intitule « La situation religieuse au tournant du troisième millénaire ». Et à l'occasion de ce chapitre, qui est un chapitre d'introduction, nous poserons la situation religieuse dans le monde aujourd'hui. Le deuxième chapitre est intitulé « Panorama des religions dans le monde au XXIe siècle ». C'est une approche plus géographique. Elle passera en revue les principales religions du monde en utilisant des cartes qui vont s'avérer extrêmement utiles. Et je précise aussi que ce chapitre sera l'occasion de rappeler ce que nous avions vu les années précédentes, c'est-à-dire en guise de rappel pour aussi ceux qui nous rejoignent cette année. Ce que nous avions vu les années précédentes, c'est l'origine des religions. Donc on en reparlera succinctement, mais il faut, je pense, en reparler. Et nous évoquerons l'origine des religions qui sont toujours vivantes actuellement, pour coller avec notre programme, c'est-à-dire l'actualité des religions. Troisième chapitre, c'est le chapitre intitulé « Instrumentalisation politique du religieux ». Et là, nous entrons dans le vif du sujet en montrant les liens étroits qui existent entre les religions et les États. Alors, quels sont les liens entre une religion et une nation? Bref, entre la religion et la politique. Quels sont les liens? Bon. Alors, nous verrons les conséquences de cette collusion, car il y a collusion, bien sûr, entre religion et politique, entre religion et État. Comment la religion peut être instrumentalisée pour justifier une différenciation culturelle et pour distinguer des caractères culturels discriminant un groupe. Donc ça sera effectivement un cours particulier qui s'intitule « Ethnicisation et racialisation de la religion ». C'est un problème vif et un problème d'actualité. Alors, si bien que la religion devient un élément identitaire pour beaucoup de peuples au XXIe siècle. Et ça sera effectivement le leitmotiv, sans doute, de toute l'année. Donc on va beaucoup développer ce point. La religion est un élément identitaire pour beaucoup de peuples au XXIe siècle. Et on pourrait presque dire finalement un prétexte. Un prétexte pour s'affirmer, pour appuyer ses revendications, etc. Et ça dans un contexte de mondialisation où les communautarisme se porte plutôt bien. Donc il ne faut pas opposer mondialisation et communautarisme, bien au contraire, on pourrait dire que l'un ne va pas sans l'autre. Alors justement, dans un contexte de globalisation, c'est le contexte dans lequel nous vivons, le religieux se présente aussi, bien entendu, comme un marché. Comme un marché, ce qui veut dire qu'il y a un prosélytisme, il y a une propagande religieuse qui serve la plupart des religions, sinon toutes les religions actuelles et vivantes aujourd'hui, s'inscrivent en quelque sorte dans un marché, prosélytisme et propagande. Là-dessus, nous passerons au chapitre suivant, le sens des mots et des concepts. Alors, je ne vous l'apprends pas. On vit une époque où les mots et les concepts sont dévoyés, sont utilisés à tort et à travers, voire instrumentalisés. Et la mauvaise compréhension de ces choses conduit inévitablement à des confusions, dont les conséquences peuvent être dramatiques. Donc il s'agira de renaissance à la religion civile, par exemple, la laïcisation et la sécularisation, l'agnosticisme et les athéismes, en précisant, c'est pour ça que c'est au pluriel, qu'il y a un athéisme qui relève d'une conviction personnelle, et il y a l'athéisme d'État, donc c'est très différent quand même. Hein. L'athéisme d'État, par exemple, c'est le marxisme, c'est encore le maoïsme, entre autres. Hein. On verra aussi, parmi ces mots et ces concepts, le fanatisme et l'intégrisme, en rappelant qu'à l'origine, ce sont des tendances minoritaires du catholicisme, fanatisme et intégrisme, que l'on applique, donc sans doute très justement, très légitimement, à l'islam aujourd'hui, mais enfin ce sont à l'origine des tendances minoritaires du catholicisme. Pareillement pour le fondamentalisme. Le fondamentalisme renvoie d'abord aux protestants évangéliques, mais on applique volontiers ce terme donc à l'islamisme, donc dans le cadre de l'islam. Et encore le communautarisme, le multiculturalisme, ce sont autant de mots, de concepts sur lesquels on essaiera d'apporter une définition qui soit la plus, disons, la plus juste, la plus rationnelle possible. Et le dernier chapitre s'intitule « Un retour des religions, c'est une interrogation, la désécularisation du monde ». Alors, désécularisation du monde, c'est une formule et un mot, désécularisation, que l'on doit à Peter Berger. Peter Berger est l'auteur d'un ouvrage que vous lisez sur l'écran, dont la référence bibliographique vient de s'afficher sur l'écran. Alors, d'après l'auteur Peter Berger, le monde d'aujourd'hui est, dit-il, aussi furieusement religieux que toujours. Il souligne dans cet ouvrage que les religions qui ont cherché à s'aligner sur les valeurs de la modernité ont globalement échoué, dit-il, hein, pour les religions qui ont tenté de s'aligner sur les valeurs de la modernité. Tandis que celles qui ont maintenu un supernaturalisme réactionnaire, attention à cette formule, c'est pas très agréable comme formule, mais enfin c'est la formule de Peter Berger, supernaturalisme réactionnaire. C'est le problème des sociologues. Les sociologues aiment beaucoup les néologismes. Bon, donc admettons, on a compris de toute façon le sens hein, de ce qu'il veut dire. Quoi qu'il en soit, donc celles qui ont maintenu un supernaturalisme réactionnaire, d'après Peter Berger, ont largement prospéré. Bon, ça sera l'objet du premier cours d'introduction que l'on aura dans 2 semaines. Et l'ouvrage de Peter Berger, remarquez-le, a 20 ans. Il a déjà 20 ans. Un peu plus de 20 ans. Il a été publié quelque temps après ces fameux événements qui ont fait dire à certains que nous vivions la fin de l'histoire. Alors souvenez-vous, c'est la référence à l'essai d'un politologue américain qui s'appelle Francis Fukuyama, essai qui avait été publié en 1992, la fin de l'histoire pour faire simple. Donc les événements en question, quels sont-ils? Tout le monde les connaît, ce sont des événements qui constituent une charnière. Hein, une charnière, c'est-à-dire qu'on a basculé dans une nouvelle ère après ces événements. C'est par exemple la répression qui, en Chine, a conduit au massacre de la place Tiananmen. C'est encore la chute du mur de Berlin pour d'ailleurs la répression chinoise. Effectivement, vérifiez-le, c'est vraiment un événement charnière puisque la Chine s'est totalement transformée après cet événement et on en voit aujourd'hui les conséquences. Chute du mur de Berlin, chute de l'Union soviétique, voilà, bon, donc on connaît ces événements. Si bien que le premier cours, celui que l'on aura dans 2 semaines, sera consacré au sens que les sociologues et les historiens donnent à la notion de modernité. C'est pas pour rien que notre programme s'intitule « Religion et modernité ». Alors comprenez bien, il y a 50 ans, on croyait que plus la modernité avançait, plus la religion s'effaçait. Force est de constater qu'il n'en est rien. Sociologues et historiens s'étaient donc trompés il y a 50 ans de cela, sur le sens à donner à la modernité, et même sur la pertinence d'un concept comme le postmodernisme, qui est aujourd'hui d'ailleurs une notion très contestée. Quel est le sens à donner à postmodernisme? On verra par exemple que certains sociologues, comme Yves Lambert, préfèrent parler d'ultramodernité pour rester dans la continuité. Enfin bon. Donc tout ça effectivement a été mal jugé, mal défini. Modernité, postmodernité. Bon. Finalement, qu'est-ce que l'on constate aujourd'hui avec le recul que l'on a? C'est que la religion fait corps avec la modernité. C'est un constat, donc c'est le constat que l'on peut faire actuellement. Alors dans ce chapitre de conclusion, nous verrons quels sont les revivalismes, les nouveaux mouvements religieux, ce qu'on appelle les nouveaux mouvements religieux, donc NMR, et donc on verra que ces nouveaux mouvements religieux naviguent entre de nouvelles orientations, des déviances, des confessions traditionnelles qui sont prolongées, mais il y a des déviances aussi religieuses et sociales, enfin on verra tout cela, et c'est bien ça qui fait aujourd'hui la modernité des religions. Donc on ne peut pas exclure de la modernité le religieux, c'est le constat que l'on fait aujourd'hui, constat peut-être amer, sans doute même amer, en tout cas qui n'est plus du tout celui que l'on faisait il y a 50 ans de cela. Donc ça, c'est une présentation, disons, générale que je vous propose de notre programme de cette année. Et je vous rappelle aussi que vous avez une bibliographie. Donc, toujours la même adresse, c'est le site de l'ACLA, voilà, donc vous retrouverez, qui est accessible, je crois que j'ai mis la bibliographie en libre accès. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes tous abonnés à l'ACLA, donc ça ne pose aucun problème. Pour récupérer cette bibliographie, vous pouvez la télécharger, vous pouvez l'imprimer, elle est sur le site, vous pouvez la consulter quand vous voulez. Donc c'est une bibliographie qui est assez fournie, c'est une bibliographie thématique qui sélectionne des titres en français, pas que des titres en français, mais enfin j'ai essayé de ne retenir que des titres en français. Et donc en consultant cette bibliographie qui fonde notre programme, vous verrez que finalement nos cours de cette année vont s'appuyer sur les travaux de sociologues et d'historiens des religions, tels Yves Lambert que j'évoquais à l'instant, mais on peut citer aussi Mircea Eliade, qui décidément est assez incontournable, Odon Vallée est une référence tout à fait importante. Il y a des références bibliographiques de philosophes, de politologues. Vous y trouverez Frédéric Lenoir, Olivier Roy, Michel Onfray, Georges Cormes, Gilles Kepel, et d'autres encore, beaucoup d'autres, et des noms qui sont très importants dans ces domaines de l'histoire des religions, de la philosophie, de la sociologie et de l'anthropologie, car c'est bien sûr sur ces disciplines-là qu'on s'appuie pour présenter notre programme de cette année. Donc voilà un peu pour présenter d'une façon générale notre programme de cette année. Vous avez donc un programme et calendrier, vous avez une bibliographie. Alors là-dessus, ce que je vous propose dans cette présentation d'aujourd'hui, c'est de vous donner l'esprit dans lequel finalement on va travailler cette année. Alors, ce que l'on peut dire, peut-être d'abord, si on s'intéresse à l'actualité des religions, c'est qu'il y a une image officielle que les religions aiment montrer et qu'elles savent d'ailleurs très bien diffuser via des organes comme l'ONU. Et le 5e congrès des représentants religieux du monde, qui s'est tenu les 10 et 11 juin 2015 à Astana, au Kazakhstan, est une de ces manifestations tout à fait officielles, c'est le visage officiel des religions. Alors bien entendu, d'emblée, ce congrès a condamné la violence exercée au nom de la religion. Ça a été un point important. Ce congrès a rappelé au monde que le dialogue interreligieux existe et qu'il peut contribuer à sortir des amalgames et mieux à construire un avenir de paix et de stabilité. Les religions aurait ainsi un rôle à jouer, hein, c'est d'après les représentants de ce congrès, un rôle à jouer, d'autant plus que les populations affrontent désormais, aujourd'hui, des situations instables en raison de la pauvreté, de l'urbanisation galopante, du réchauffement climatique, de la criminalité internationale. Enfin, la religion, actuellement, aurait un rôle à jouer pour apporter plus de paix, plus de stabilité. Et à l'occasion de ce congrès, on a rappelé l'exemple de l'Andalousie. L'Andalousie des 11e et 12e siècles. Ça a été présenté comme une période d'harmonie et d'échange, de l'air de dire ben, c'est possible, etc. Donc on peut effectivement, grâce à la religion, par le détour de la religion, on peut effectivement espérer plus de stabilité, construire une période d'harmonie et d'échange, riche scientifiquement, propice à la transmission des savoirs et des savoirs avant tout philosophiques. Et c'était l'exemple, semble-t-il, de l'Andalousie au XIe et XIIe siècle. Alors ça, c'est un point déjà très contestable, hein, un point très contestable parce que le démantèlement du califat omeyyade de Cordoue à la fin du Xe siècle, début XIe, conduit les Almoravides au pouvoir et à la fin de la tolérance. Fin de la tolérance qui existait avant eux, donc du temps du califat omeyyade de Cordoue. Tolérance toute relative à ce propos. Quoi qu'il en soit, les Almoravides seront chassés par les Almohades. Et les Almohades, dans l'Espagne mauresque, vont brutalement changer les conditions de vie des dhimis, les dhimis juifs, les dhimis chrétiens d'Espagne. Donc vous voyez que l'exemple de l'Andalousie qui avait été présenté à l'occasion de ce congrès est tout à fait discutable. Bon, enfin, laissons, c'est quand même tout à fait positif tout cela, c'est-à-dire on espère que, donc effectivement, la religion peut apporter quelque chose dans notre actualité. Soit. Alors il y a des exemples plus récents de tolérance religieuse qui ont été données à l'occasion de ce congrès. Par exemple, l'inauguration le 11 juin 2015 de la cathédrale Saint-Paul à Abu Dhabi. Ça a été un exemple donné à l'occasion de ce congrès. Abu Dhabi, capitale des Émirats Arabes Unis, donc à l'occasion de cette inauguration, on insistait sur le fait là-bas que c'était la deuxième église catholique de la ville qui symbolisait la grande tolérance religieuse dont font preuve les autorités du pays, c'est-à-dire des Émirats arabes, qui connaissent, et là je reprends finalement les termes du ministre de la Jeunesse, de la Culture et du Développement communautaire des Émirats, qui à l'occasion de cette inauguration disait que effectivement ça symbolisait la grande tolérance religieuse, leur vraie richesse, et accepte l'obligation de respecter, de comprendre la grande diversité des croyances religieuses des personnes vivant dans ce pays, c'est-à-dire les Émirats arabes unis. Inauguration de la cathédrale, donc Saint-Paul à Abu Dhabi. Bon, ça c'est effectivement un visage que montre la religion aujourd'hui, un visage très officiel. Autre visage très officiel, ben justement restons à Abu Dhabi. Un vendredi de l'année 2015, appel du Muezzin, les hommes jeunes et plus âgés transportant pour certains un tapis sous le bras, déambule au pied des buildings de verre et d'acier dans ces rues du centre-ville d'Abu Dhabi, et cela en direction de la mosquée la plus proche. Bon, et en ce jour de grande prière a lieu la communion d'hommes et d'enfants de toute origine, émirienne, indienne, pakistanaise, maghrébine, libanaise, syrienne ou africaine. Bon, enfin, tous unis entre hommes par leur dévotion et leur volonté d'exprimer un message divin de paix et d'amour. Ça, c'est toujours le visage officiel de la religion. Sous l'arbre sacré de la Bodhi, où Bouddha a connu l'éveil, quelques moines tibétains, vêtus d'une kesa rouge, C'est une sorte de châle qui se drape autour du torse sur un gilet, laissant le bras droit nu. Ces moines tibétains sont assis, ils récitent des mantras, et ce chant sourd et guttural répété presque à l'infini appelle à la méditation. Ces vertus apaisantes sont réputées bénéfiques pour le corps et l'esprit. Et là, vous avez l'expression d'un hommage à l'univers tout entier. Nous sommes dans le cadre du bouddhisme. Ce chant accompagne les bouddhistes qui prient. Ils prient en passant de la station debout à celle d'allongée, et cela des heures durant. Enfin voilà, un hommage à l'univers tout entier, la ferveur de la dévotion et la sérénité des pratiquants impressionne bien sûr par la puissance de la foi qu'elle révèle. C'est toujours une image très officielle des religions aujourd'hui. Continuons, sur la place Saint-Pierre, se réunissaient avant le Covid, évidemment. Et comme chaque année, d'ailleurs, des milliers de catholiques à l'occasion des célébrations de Pâques. Et ces catholiques venaient écouter les paroles du pape François avant sa traditionnelle bénédiction Urbi et Urbi. Remarquons que pour donner le change avec l'islam et le bouddhisme, la bénédiction Urbi et Urbi, c'est un message de paix et d'espoir au monde. Comme ce que nous avons dit à l'instant dans le cas de l'islam, comme ce que nous venons de dire à propos du bouddhisme. Bon, enfin, le pape a rappelé avant sa bénédiction la nécessaire humilité des hommes face à, je le cite, l'orgueil qui alimente violence et conflit. Et alors, oui, donc cette imagerie officielle, ben, on le voit finalement, elle se diffuse très bien, donc il y a un vrai... une vraie publicité, pour ne pas dire propagande, qui est faite autour de cette imagerie que je vous présente, et ce ne sont que quelques exemples. En voici un autre, toujours dans le cadre du catholicisme. Nous sommes le jeudi 26 août de cette année, là. Le pape François a nommé une religieuse italienne, qui est une économiste, une femme extrêmement savante, Alessandra Smerilli, au poste de secrétaire du Dicaster du développement humain intégral. C'est le ministère qui pilote toutes les questions de développement. Un ministère qui est aussi chargé des questions relatives aux droits de l'homme, à l'écologie ou encore aux migrations. Et pourquoi je vous présente cet exemple? Tout simplement parce que c'est la première fois qu'une femme occupe de telles fonctions au Vatican. Ce sont des fonctions extrêmement importantes, c'est un ministère qui est extrêmement important au Vatican. Donc bien sûr, on en a entendu parler, c'est un événement quand même considérable dans le cadre du catholicisme, surtout quand on connaît l'histoire du catholicisme. L'an dernier, le pape François avait créé un groupe de travail au sein du Vatican pour réfléchir au monde de l'après-Covid. Confiante à cette religieuse, Alessandra Smerilli, le soin de piloter la section économique, c'est une économiste, elle est vraiment très savante, cette femme, et voilà un petit peu donc cette imagerie qu'on nous propose, islam, bouddhisme, christianisme, montre un visage de paix universelle et d'amour. Alors vous l'avez compris, si je vous présente cette imagerie officielle, c'est pour vous présenter maintenant un autre visage des religions, qui est cette fois-ci très contrasté. Alors voici quelques exemples qui sont pris dans notre actualité récente. Donc on propose un contraste, mais le contraste est assez frappant. À l'été 2019, le risque d'épidémie de rougeole était tel à New York que le maire de la ville, Bill de Blasio, rétablissait l'obligation vaccinale pour forcer les communautés juives orthodoxes du quartier de Williamsburg, dont vous avez ici une photo, à vacciner leurs enfants contre cette maladie très contagieuse, alors qu'une exemption de vaccination leur est en général accordée, et accordée pour motif religieux. Alors quoi qu'il en soit, suite à la décision du maire, des écoles confessionnelles ont été fermées, et puis précisons aussitôt que, attention, cette situation ne concerne pas seulement les familles de juifs orthodoxes, mais d'autres communautés religieuses, hein, qui étaient bien sûr obligées de respecter la décision du maire. Hein. En juin 2021, 5 vaccinateurs anti-polio, cette fois-ci, 5 vaccinateurs anti-polio étaient assassinés en Afghanistan par des hommes armés. 4 autres sont blessés dans des attaques ciblées. Ça s'est joué dans le Nangarhar, c'est-à-dire cette province de l'est du pays, de l'Afghanistan. Les talibans ont nié toute implication dans ces attaques et ces 5 meurtres de vaccinateurs anti-polio. Restons sur ce sujet, hein, vaccination et religion. Aux Pays-Bas, les protestants calvinistes représentent environ 16% de la population. Et parmi eux, donc j'insiste, parmi ces 16% de la population, une petite frange de croyants traditionnels qu'on est en droit d'appeler des fondamentalistes. Voilà. Principalement localisés dans une zone qui est surnommée la ceinture de la Bible. La ceinture de la Bible, c'est ici, hein, aux Pays-Bas, en référence d'ailleurs à donc un espace sociologique semblable aux États-Unis. Enfin, passons, vous avez la référence sur la projection. Quoi qu'il en soit, cette frange de croyants est farouchement opposée à la vaccination contre le Covid-19, de même qu'ils s'opposent aux gestes barrières et ainsi de suite. Or, dans les églises, fidèles et pasteurs continuent à se réunir par centaines, sans masque, et refusent l'idée d'injecter une maladie dans un corps sain. Ça, c'est cette idée qui les bloque, injecter une maladie dans un corps sain, c'est-à-dire le vaccin. Alors signalons que cet argumentaire est aussi celui des adeptes du mouvement New Age ou tout autre mouvement qui prône une médecine naturelle. Autre aspect très contrasté par rapport à ce message de paix, d'amour que diffusent les religions, que savent aussi diffuser les religions, et qui n'est pas d'ailleurs... donc à contester les religions fondamentalement, toutes les religions, que ce soit l'islam, le christianisme, le judaïsme, le bouddhisme, l'hindouisme même, hein, sont des religions qui, a priori, sont censées délivrer un message de paix et d'amour. Bon, là nous sommes en avril de cette année, donc année 2021, au début du mois du Ramadan, des affrontements ont opposé des Palestiniens et des Juifs à l'entrée de la vieille ville, un secteur arabe annexé par l'État hébreu. D'un côté, les Palestiniens qui dénoncent le fait que les Israéliens refusent de les laisser célébrer Ramadan, et de l'autre, les Juifs qui accusent les Palestiniens d'empêcher les Juifs d'aller prier au Kotel. Le Kotel, c'est ce que vous avez sur l'écran, c'est-à-dire le mur des Lamentations, et cela pendant le Ramadan. Bon, laissons cela en suspens, que voulez-vous ? Donc là, c'est deux camps qui s'affrontent et qui ne se comprennent pas du tout. Le problème, c'est que ça provoque des situations extrêmement critiques. Hein. Alors justement, en voici une qui est tout à fait dramatique. Hein. Donc ça nous situe en Inde, et donc dans le cadre de l'hindouisme. En Inde, dans les années 1980, un processus de radicalisation s'est développé dans la mouvance d'un mouvement nationaliste et identitaire hindou, représenté jusque-là par une organisation hindouiste qu'on va simplifier, c'est le RSS, ça s'affiche sur l'écran, Association des Volontaires Nationaux. Donc ça, c'était dans les années 80. Au cours de cette décennie, 1980, on a assisté à la création des filiales du RSS, dont, par exemple, le réseau religieux connu sous le nom de BHP, ça s'affiche sur la projection, BHP, Association Hindoue Universelle. Hein. Bon. Donc, autre filiale qui a été créée dans la continuité du RSS, c'est le front politique représenté par, cette fois-ci, le BJP, qui est bien plus connu que les autres organisations. Alors, le BJP, c'est le Parti du Peuple Indien, c'est à ce propos le bras politique du mouvement nationaliste hindou. Pour faire simple, c'est le parti de Narendra Modi. Et tout ça, ça a été enclenché dans les années 80, c'est-à-dire il y a quand même 40 ans de ça. Hein. Alors, ces organisations, surtout la VHP, ont joué un rôle crucial dans les campagnes nationalistes religieuses pour la construction d'un temple hindou à Ayodhya. Ayodhya, c'est la photo que vous avez sur l'écran. Et ces organisations ont instrumentalisé le dieu Rama, qui est un dieu considérable de l'hindouisme, bien sûr. Bon. Enfin, elles ont instrumentalisé le dieu Rama pour en faire un symbole identitaire afin de rallier les religieux à la cause du nationalisme hindou. Là-dessus, la construction du temple hindou, est devenue un enjeu électoral avec l'entrée en scène du BJP. Souvenez-vous, Parti du Peuple Indien, c'est le parti de Narendra Modi aujourd'hui. Entrée en scène donc du BJP. C'est-à-dire, pour s'attirer les faveurs de la communauté hindoue majoritaire, ce parti du peuple indien s'en est pris indirectement à la communauté musulmane en mettant directement en question la mosquée Babri. Le processus accélère au début des années 1990. En 1990, le président du BJP, qui était à cette époque Advani, se lance dans un périple à travers tout le pays. Son parcours devait le conduire jusqu'à l'état de l'Uttar Pradesh, c'est là où se situe cette ville d'Ayodhya. Et sur le chemin, à grand renfort du discours nationaliste tout à fait incendiaire, ce Advani réussit à mobiliser des milliers d'hindous à la cause de Rama, le dieu Rama. Et là, vous avez un tournant dans l'histoire contemporaine indienne, car même si la police l'empêche d'entrer dans Ayodhya, le fondamentaliste Advani réussit quand même à transformer en un phénomène de masse le mouvement identitaire réclamant la construction du temple sur le site de la mosquée Babri. La mosquée remonte au XVIe siècle. C'est donc un monument considérable de l'histoire de l'architecture, de l'histoire de l'art dans l'islam. Bon. Alors, là-dessus, le 6 décembre 1992 a lieu la destruction de la mosquée en question, de la mosquée Babri à Ayodhya, mosquée qui remontait au XVIe siècle. Et ça va avoir des répercussions tragiques au niveau national. Dans les jours qui suivent, l'Inde connaît une vague d'émeutes entre hindous et musulmans qui font 2000 morts. Quand même, 2000 morts. Bon. Alors, vous avez sans doute suivi cette actualité. Ce n'est qu'en 2019 que la Cour suprême indienne attribue le site disputé aux hindous. Décision d'ailleurs qu'on peut qualifier de réaliste. C'est réaliste. Pourquoi ? Parce que face aux nationalistes hindous, jamais le gouvernement indien aurait pu autoriser la reconstruction de la mosquée en faveur de la minorité musulmane. Ça aurait créé encore plus de problèmes. Bon, donc la décision était finalement réaliste. Là-dessus, le Premier ministre Narendra Modi, qui a joué peu avant sa réélection sur la promesse d'un temple géant dédié à Rama, ben là-dessus, Modi triomphait aux yeux de ses supporters. Hein. Alors pourquoi j'ai pris cet exemple ? Parce que fin août de cette année, donc il y a quelques semaines, là, le gouvernement nationaliste hindou annonçait un projet d'investissement pour relier la capitale New Delhi à Ayodhya. Ayodhya, c'est une cité de seulement 50 000 habitants, donc c'est rien du tout. Hein. C'est un tout petit village en Inde, finalement, enfin, quand on connaît la population indienne. Hein. Mais voilà, donc projet d'investissement pour relier la capitale New Delhi à Ayodhya, plus précisément 670 km de rail pour un TGV, un investissement de 25 milliards d'euros, c'est considérable. Et vous devez comprendre qu'il y a derrière toutes ces décisions des enjeux politiques extrêmement importants. Il y a par exemple les élections en février 2022 dans l'Uttar Pradesh, hein, donc c'est le plus peuplé des États indiens. C'est là où se trouvent les villes saintes, Varanasi, Ayodhya bien sûr, avec son dieu Rama, etc. Et le BJP, donc le Parti du peuple indien, doit à tout prix conserver le contrôle de cet État hindouiste. En cas de défaite, le signal serait catastrophique pour les élections nationales de 2024. Pourquoi j'ai insisté longuement sur cet exemple? Parce qu'il me semble que vous avez là un remarquable exemple de l'instrumentalisation politique du religieux. C'est tout à fait caractéristique de notre actualité, me semble-t-il. Alors, il y a une question peut-être qui est posée. Je vais me permettre de la lire. Ah, c'est une arrivée tardive. Bon, donc je passe et je continue. À propos donc de cet exemple qui me paraît quand même tout à fait essentiel. Le nationalisme hindou s'est cristallisé dans les années 1920. Vous voyez que c'est finalement, c'est comme d'ailleurs dans le cadre de l'islam, il y a des courants qui sont des courants assez durs, qui se sont cristallisés dès le 19e siècle. Donc là, c'est dans les années 1920 que le nationalisme hindou se cristallise, héritant des mouvements de réforme socio-religieuse du 19e siècle. Et en 1923, Savarkar dont vous avez les dates de vie de mort sur l'écran, codifie sa charte idéologique dans un livre, Hindutva, hindouité, vous le traduisez par hindouité ou indianité. Alors il y a quelques jours en Inde, une polémique a eu lieu à propos d'un colloque qui s'est déroulé aux États-Unis sur l'extrémisme hindou. La question posée était de savoir s'il fallait déconstruire l'hindoutva, c'est-à-dire cette hindouité, cette indianité, ce nationalisme hindou. Parce qu'il fait peur, effectivement, après cette histoire que je vous ai racontée autour du temple du dieu Rama, de l'investissement donc qu'il y a eu et des enjeux politiques autour. Bon, c'est effectivement quelque chose qui peut poser question. Alors, à cette occasion, des conférences réunissaient les spécialistes mondiaux de cette idéologie nationaliste et religieuse, c'est-à-dire des spécialistes qui sont des sociologues, des historiens, que sais-je. Bon, il y avait le français Christophe Jaffrelot qui était invité à ce colloque pour parler de l'Hindutva, avec cette question suspens, faut-il déconstruire l'Hindutva. Quoi qu'il en soit, beaucoup des partisans du BJP, parti de Narendra Modi, beaucoup des partisans du BJP ont perçu ça comme une attaque contre le pays. Si bien que plusieurs intervenants indiens ont dû renoncer à participer à la conférence après avoir reçu des menaces de mort. Ça, c'est notre actualité, hein. C'est il y a quelques jours que ça s'est passé. Donc, les intervenants indiens ont dû renoncer, mais l'affaire est allée très loin, puisque des centaines de milliers de mails ont été envoyés aux universités pour réclamer l'annulation de l'événement. Alors voilà, hein, ce qu'est notre actualité, et on le voit très bien, on ne peut pas détacher, certainement pas, la religion de la modernité. la religion fait corps avec la modernité. Nos historiens, nos sociologues, il y a 50 ans de cela, s'étaient trompés. Ces dernières années, la liberté des chercheurs a reculé en Inde, mais pas seulement en Inde, bien sûr, hein, le parti BJP ayant placé des proches à la tête de beaucoup d'universités. Bon. Alors, c'est un exemple, en voici un autre, toujours dans notre actualité, récente, hein, très récente, hein, puisque ça nous situe le 1er septembre de cette année. Ce 1er septembre, de nombreuses lois qui avaient été votées au printemps dernier, vous le savez, sont entrées en vigueur au Texas. Des lois symboliques de la lutte entre le camp républicain et le camp démocrate, camp minoritaire dans cet état du Texas. Et parmi ces lois, port d'armes sans permis, donc désormais effectivement, peut porter une arme sans permis au Texas, et interdiction d'avorter après 6 semaines, entre autres lois voilà, qui sont entrées en vigueur le 1er septembre. Or, le législateur a décidé d'intervenir sur la manière dont l'éducation civique et historique est enseignée à l'école, si bien que les conservateurs républicains ont interdit de discuter de certains sujets. Et ça, c'est dans la loi désormais. Parmi ces sujets, évidemment, ne plus parler en classe des exactions du Ku Klux Klan. Éviter de faire le moindre rapprochement entre ce mouvement et les suprématistes blancs. Donc finalement, quand on dit la liberté des chercheurs recule en Inde, plus largement dans le monde, c'est une question de culture, d'éducation, qui semble effectivement se réduire, hein, un peu partout dans le monde. Alors enfin, on le voit, partout dans le monde, la religion est instrumentalisée. Elle est instrumentalisée à des fins politiques et surtout à des fins identitaires. Donc il faut être très prudent quand on parle de retour des religions. Il faut être très très prudent. Hein. Si ce retour est incontestable, encore faut-il préciser pourquoi il a lieu. Qui sert-il ? C'est pour ça qu'il faut insister sur ces questions d'instrumentalisation politique du religieux et la question identitaire. On se sert de la religion à des fins identitaires. Hein. Donc ça va effectivement nous intéresser tout au long de cette année. On continue parce que notre actualité, oulala, donc elle est très riche, hein, très très riche, et souvent d'ailleurs assez malheureuse dans la continuité de ce que je viens de dire à l'instant. 22 avril, nous sommes à Alger, 22 avril 2021, nous sommes à Alger et Saïd Djabelkir, qui est un islamologue spécialiste du soufisme, docteur en philosophie, a été condamné à 3 ans de prison ferme pour offense aux préceptes de l'islam et aux rites musulmans. Et cela, c'est en vertu du code pénal algérien qui punit les atteintes à la religion. Dans certains pays, c'est toujours bon de le rappeler, le délit de sacrilège est considéré comme très grave. Bon, et là, c'est effectivement en quelque sorte le cas. Saïd Djabelkir devient ainsi le premier universitaire algérien condamné pour offense aux préceptes de l'islam. Qu'est-ce qui lui est reproché ? Il lui est reproché d'avoir écrit que le sacrifice du mouton existait avant l'islam. Alors oui, c'est peu de le dire, le sacrifice du mouton existe depuis très très longtemps, bien avant l'islam, bien avant le christianisme, bien avant le judaïsme. C'est un sacrifice qui existe depuis au moins l'époque proto-historique, sinon encore plus vieux. Il lui est reproché d'avoir critiqué le mariage précoce des filles dans certaines sociétés musulmanes. Auparavant, Saïd Djabelkir avait été attaqué pour avoir mis en question l'authenticité de certains hadiths, les hadiths du prophète, les paroles données au prophète et qui ont été rapportées par la tradition. Bon. Tout cela est légitime, donc on a le droit de discuter quand même, hein, de certaines choses. Mais enfin, voilà, dans des pays où le sacrilège est un délit, non, on ne peut pas en parler manifestement. Et alors ce fait est révélateur du vif débat qui oppose au Maghreb les réformateurs et les salafistes. C'est révélateur d'un durcissement des autorités algériennes en matière de religion. Ça, c'est notre actualité. Alors, en effet, la décision à l'égard donc de Saïd Djabelkhir, cette décision de justice s'inscrit dans le contexte de la répression par les autorités algériennes du mouvement Irak, souvenez-vous, hein, H-I-R-A-K. Ce mouvement, c'est un mouvement qui est constitué ou qui s'est fait à partir de manifestations sporadiques qui ont eu lieu depuis février 2019 en Algérie, à l'origine pour protester contre la candidature d'Abdelaziz Bouteflika. Donc voilà finalement la situation, durcissement des autorités en matière de religion en Algérie, mais on le voit bien ailleurs aussi dans le monde. Alors là-dessus, il faut aussi rappeler qu'il y a ceux qui sont persécutés dans l'exercice de leur foi, hein, donc c'est-à-dire ceux qui, cette fois-ci très légitimement, considèrent leur religion comme porteuse d'un message d'amour et de paix. Alors qu'il s'agisse des chrétiens d'Orient, d'étudiants chrétiens au Kenya, de coptes en Égypte, de musulmans, les musulmans Rohingyas en Birmanie, ou même les musulmans, qu'ils soient sunnites ou chiites, dans les pays où domine une tendance plutôt qu'une autre, Yémen, Iran, Arabie Saoudite, bon, voilà. Et là, il y a effectivement des gens qui, pour leur foi, sont persécutés. Il y a d'autres parmi les religieux qui dévoient les paroles divines. Ces paroles divines sont a priori toujours les mêmes, donc amour, paix, etc. Bon, enfin, il y a effectivement ceux qui dévoient les paroles divines pour asseoir leur pouvoir, pour imposer leurs idéologies. Ils mènent des guerres saintes, comme le mouvement de l'État islamique en Irak et en Syrie, ce n'est qu'un exemple. Et en ce début du XXe siècle, du XXIe siècle, ben finalement la religion semble de plus en plus invoquée comme cause ou facteur des conflits. La religion est invoquée comme cause ou facteur des conflits. Elle n'est pas à l'origine des conflits, hein. Elle est invoquée comme cause ou facteur des conflits. Pas tout à fait pareil. Et alors, on est en droit de se poser deux questions. Quelle en est la raison? Pourquoi la religion, ce début de XXIe siècle, est invoquée dans ce sens? Quelle en est la raison? Et deuxième question, pourquoi les phénomènes religieux, pourtant porteurs de messages universels de paix, sont-ils devenus prétextes? Prétexte à la guerre, prétexte à la justification de massacres ou de persécutions, enfin, un instrument des pouvoirs au service du pire. Pourquoi? Alors, dans cette présentation générale de notre programme, on peut répondre à ces deux questions d'une façon très très générale, et puis on y reviendra bien sûr dans le courant de l'année. Premier constat, la religion est redevenue un élément identitaire fondamental pour bon nombre de peuples, remettant en cause la sécularisation des sociétés, cette sécularisation qui semblait s'amorcer depuis la Seconde Guerre mondiale avec l'expansion du monde occidental, la sécularisation des sociétés est mise clairement en question aujourd'hui. Au cours du XXe siècle, la civilisation judéo-chrétienne s'est diffusée dans les pays occidentaux et s'est imposée comme modèle sociétal universel, reléguant le monde arabo-musulman à ses spécificités. Or, c'est justement ce modèle civilisationnel, c'est-à-dire ce modèle, pour faire simple, de civilisation judéo-chrétienne, qui aujourd'hui est mis en question dans beaucoup de pays, dont l'Afghanistan aux mains des talibans. Plus inquiétant, un discours se met en place chez nous, qui semble aller dans ce sens. En 2020, le monde est plus religieux qu'il ne l'était en 1970. Toujours ces 50 années qui nous séparent, c'est pas grand-chose, 50 ans. Mais alors, quel bouleversement. Enfin, aujourd'hui, le monde est plus religieux qu'il ne l'était en 1970. Hein, l'expansion de quasiment toutes les religions le prouve. Pas seulement dans les anciens pays communistes d'Europe de l'Est, mais également en Chine, en Afrique, et on n'évoque même pas les nouvelles spiritualités qui sont apparues. Mais qui sont importantes aussi à signaler, qui témoignent bien d'un retour des religions, ou du religieux. À la mondialisation économique répond donc une globalisation du religieux. Globalisation dans le sens que ce retour du religieux est un phénomène global dans le cadre de la mondialisation économique. Et grâce à quoi l'individu retrouve des valeurs fondamentales et un sentiment d'appartenance. C'est toujours cette question identitaire. Dans une société qui est désormais mondialisée. Ça, c'est un premier constat que l'on peut faire, qui peut permettre de répondre aux deux questions que j'ai posées, du moins apporter des arguments dans ce sens. Deuxième constat, ces identités de type religieux sont très souvent mobilisées, voire instrumentalisées, par les pouvoirs politiques ou divers groupes. Identités de type religieux, hein, donc mobilisées, instrumentalisées par les pouvoirs politiques, et ça contribue évidemment, inévitablement, à des violences ou des conflits de par le monde. Hein. Et l'exemple le plus frappant, c'est le clivage entre juifs et musulmans, qui s'est exacerbé avec la création de l'État d'Israël en Palestine, tout comme, pour donner un autre exemple, le clivage entre sunnites et chiites, avec l'avènement de la révolution islamique en Iran, l'Iran étant, vous le savez, majoritairement chiite. Donc ça aussi c'est un point fondamental qui est un constat que l'on peut faire et qui peut donner des arguments pour répondre aux questions posées. Troisième constat, les trois monothéismes étant des religions eschatologiques. L'eschatologie, c'est l'économie de la fin des temps, c'est-à-dire ce sont des religions qui donnent une finalité à l'histoire. Une finalité à l'histoire, il y a un début, il y aura une fin, et cette fin, c'est un ailleurs. En fait, hein, c'est un au-delà, un paradis, donc une Jérusalem céleste pour les chrétiens, etc. Enfin bon, comme ces trois monothéismes sont des religions eschatologiques, elles sont source de violence. Donc on se projette dans un ailleurs. Hein. Il y a une fin. Et tout cela, ce sont les desseins d'un Dieu unique créateur. Bon, alors effectivement, ça peut aussi poser... donc à la fois question et ça peut engendrer des ou ça peut être source de violence. Alors résumons-nous dans cette présentation de programme, vous connaissez la formule, elle est de Nietzsche, Dieu est mort, je vous ai rappelé le passage dans lequel Nietzsche fait cette proposition, disons, et puis... finalement, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on doit dire ? Dieu, bien au contraire, n'est pas mort. Hein. Contrairement à ce qu'annonçait Nietzsche, Dieu n'est pas mort. Il est même bien vivant dans les sociétés humaines d'aujourd'hui. Et finalement, Dieu n'est-il pas plutôt, comme l'affirmait Charles Baudelaire, le seul être qui, pour régner, n'ait même pas besoin d'exister. Dès 1991, le politologue Gilles Kepel, alors retenez cette référence, vous la retrouverez dans la bibliographie, elle est très très intéressante, hein, cette référence, c'est un politologue, Gilles Kepel. Kepel s'intéressait, alors attention à l'année aussi, 91, hein, cette période charnière que j'évoquais tout à l'heure avec ces événements qui sont extrêmement importants, qui nous ont fait basculer dans une une ère nouvelle. Enfin bon, Gilles Kepel s'intéressait dans la revanche de Dieu, chrétiens, juifs et musulmans, à la reconquête du monde. Il s'intéressait au retour du religieux dans les sociétés modernes sous des formes fondamentalistes, à travers notamment l'exemple des religions monothéistes. Les trois religions monothéistes étaient concernées. Et tout cela pour dire que l'ambition de cette année est à la fois de revenir sur les causes de cette résurgence, de cette revanche de Dieu, résurgence du religieux à la fin du XXe siècle, c'est notre ambition cette année, et de tenter de comprendre pourquoi et comment les religions sont instrumentalisées par les pouvoirs, devenant les vecteurs de déclenchement de conflits. Donc, ce qui me permet de rappeler une chose qui est fondamentale à mes yeux et à mon sens, les religions ne sont pas les causes de ces conflits. Les religions sont instrumentalisées par les pouvoirs. On verra d'ailleurs au cours de cette année que ça c'est depuis toujours, hein, c'est pas forcément notre actualité, mais dans notre actualité c'est vraiment saillant ça. Hein. Les religions instrumentalisées par les pouvoirs qui, à partir de là, sont des vecteurs de déclenchement de conflits, mais ce ne sont pas les causes profondes, bien sûr, des conflits. Donc l'idée sous-jacente à ce programme, c'est de saisir la dynamique des liens entre pouvoir et religion. Religion et identité. Religion et géopolitique. Voilà un petit peu donc l'ambition de ce programme. Hein. Bon. Et force est de constater, à la suite de Georges Corme, dont vous avez là aussi une belle référence bibliographique, force est de constater avec Georges Corme que la religion a servi de tout temps, et là je cite l'auteur, aussi bien d'instrument de domination interne à une société que d'extension d'influence et d'hégémonie à l'étranger. De tout temps, la religion a servi aussi bien d'instrument de domination interne à une société que d'extension d'influence et d'hégémonie à l'étranger. Alors nous présenterons la géographie religieuse du monde en ce début du XXIe siècle, afin d'en souligner les dynamiques en cours, inscrivant d'emblée le fait religieux dans une dimension de plus en plus mondiale et de moins en moins locale. Là aussi, qu'il n'y ait pas de confusion, mondialisation et religion ne sont pas opposées, tout au contraire. L'un ne va pas sans l'autre, c'est comme la modernité, religion, modernité et mondialisation font corps, en fait. Hein. Donc oui, le fait religieux a une dimension de plus en plus mondiale et de moins en moins locale, et nous tenterons d'analyser les grandes tensions qui existent entre les religions, comprenez bien, politisation du religieux à différentes échelles et en différents lieux, comment la religion conduit à la violence exercée au nom de la foi pour la défense de sa pureté, un mot terrible ça, hein, pureté, hein, dévoyant du même coup le message de paix et d'amour que les religions sont censées transmettre. Ça sera aussi notre objectif. Il s'agira de mettre en valeur la dimension spatiale des phénomènes religieux, ça c'est fondamental de s'appuyer sur des cartes, finalement, sur la géographie, en fait. Et c'est une approche qui peut contribuer à sortir de certains préjugés quand on aborde la dimension spatiale des phénomènes religieux. On sort de certains préjugés fréquents sur le poids et la diffusion de certaines religions, à l'instar du judaïsme, dont le poids démographique est inversement proportionnel à la prétendue surinfluence des juifs dans le monde. Et c'est là où les cartes seront effectivement très utiles. Il s'agira de donner du sens aux événements récents, par exemple la diffusion de l'islam djihadiste, ou l'enjeu, c'est un autre exemple, ou bien l'enjeu à Jérusalem, de l'esplanade des mosquées, mont du Temple, je l'évoquais tout à l'heure, pour les musulmans et les juifs de Jérusalem. On pourra encore relativiser l'idée de guerre de religion et susciter une réflexion sur le rôle du religieux dans les conflictualités modernes. Parce que si celles-ci, ces conflictualités modernes, ont pu exister au XVIe et XVIIe siècle, hein, en Europe, il y a eu une période de guerre de religion. Bon, les religions apparaissent aujourd'hui avant tout comme des facteurs aggravants des conflits. Hein, les religions sont des facteurs aggravants. Des vecteurs, on le disait, ce ne sont pas les causes des conflits, mais ça peut être des facteurs aggravants. Vecteurs, facteurs aggravants. Ce sont des moteurs, des vecteurs de conflictualité, en tant qu'instrument des pouvoirs et des États. Voilà, hein, c'est toute la question en fait. Hein. Le religieux est instrumentalisé. Les religions sont instrumentalisées par les pouvoirs et les États. Ce ne sont pas les mobiles et les causes profondes des conflits et des guerres contemporaines. À l'échelle de la planète, le dévoiement des religions à des fins extrémistes reste finalement un phénomène minoritaire, force est de constater qu'il est une source d'inquiétude en raison de la violence qu'il engendre et des oppositions et des tensions qu'il suscite entre les fidèles des différentes doctrines religieuses.